journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, l'un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim qui a rendu cette nuit son dernier souffle. Les autres titres, Laurence.
Ouverture du salon de l'agriculture, plombé par la désunion européenne. De retour de Bruxelles, le président de la République revient sans accord sur le maintien de l'enveloppe de la politique agricole commune. Les derniers Français rapatriés de Chine, en quarantaine en Normandie. Pas de risque de contagion, explique l'agence régionale de santé aux habitants de Branville. Harcèlement et discrimination à l'ENA, un rapport accablant d'étudiants remis à la direction de l'école. Et puis nous reviendrons sur les victoires de la musique classique avec le couronnement d'un jeune pianiste de 22 ans, Alexandre Kantorov.
Et puis l'invité ce matin, l'invité du grand entretien à partir de 8h20, ce sera Aurélien Taché, le député La République En Marche du Val d'Oise.
France Inter. EDF a donc débranché cette nuit le premier réacteur de Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Le deuxième réacteur sera débranché, lui, le 30 juin. Leur fermeture est le premier pas sur la voie d'une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Au total, 14 réacteurs doivent être stoppés d'ici 2035. La procédure de mise à l'arrêt s'est déroulée sans problème, mais pas sans amertume pour les salariés et les habitants de cette petite commune d'Alsace. Reportage de Patrick Jantan.
La mairie avait prévu une soupe populaire et des petits lumignons électriques, une ambiance de veillée mortuaire pour l'arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale cette nuit. On a vu de la tristesse et même des larmes. Cette mère de famille de 3 enfants va quitter la région. Son mari technicien à Fessenheim sera muté.
Ouais, dégoût, parce que voilà, comme dit, on va partir. Donc on laisse notre famille. Ben, mes parents, ma sœur. Voilà, c'est sûr que voilà, ça va pas être facile, hein. Mais bon, faut faire avec.
Un peu plus loin, c'est un salarié de la centrale qui vient dire sa tristesse de voir son outil de travail qui va s'arrêter.
Tout le monde est triste parce que c'est le quotidien de chacun. Puis surtout, l'origine de ça, c'est qu'on va prolonger les autres centrales 10 ans. Fessenheim aura pu aller au-delà de 10 ans. Puis on voit que c'est purement politique.
La centrale, qui fonctionne depuis 1977, fait partie intégrante de la vie de ce bourg. Rémi et Patricia sont venus pour soutenir les agents EDF.
Elle fait partie de la commune, cette centrale. C'est un état d'esprit avec tout le personnel EDF.
Très triste d'ailleurs, c'est dommage.
Même chose pour leur jeune voisine.
Parce qu'on habite ici, on marque notre solidarité par rapport aux employés de la centrale. On perd quand même notre grande dame, quoi.
La centrale de Fessenheim cessera le 30 juin prochain avec l'arrêt du réacteur numéro 2, toute activité de production d'électricité.
Patrick Jantan, il faudra se retrouver une nouvelle fois. Les 27 se sont séparés hier soir après 2 jours de négociations à Bruxelles sans accord sur le maintien de l'enveloppe de la politique agricole commune. Emmanuel Macron en avait fait sa priorité, expliquant que ce n'est pas parce que les Britanniques ont quitté l'Europe qu'il fallait réduire les moyens. Mais c'est donc sur cet échec de rencontre pourtant crucial pour les agriculteurs qu'Emmanuel Macron doit inaugurer ce matin à la porte de Versailles le salon de l'agriculture. Et dans les allées du salon, Manuel Ruffez, le sujet inquiète.
Les agriculteurs, ici, ne se disent pas pessimistes, mais réalistes. Ce budget de la PAC, pas un n'imagine même qu'il sera maintenu, tous le voient à la baisse. Stéphane est éleveur de vaches laitières dans les Côtes d'Armor. Il se dit passionné, mais dit qu'il n'est pas rémunéré à la hauteur de ses efforts. Alors, la PAC.
La PAC, on sait vers où ça va aller. Toujours moins d'argent pour l'agriculture, l'argent va ailleurs. Et aujourd'hui, on sent que l'agriculture en France n'est plus une priorité. Alors que l'agriculture française est très riche, très variée. On a les céréales, on a le vin, on a l'élevage, on a plein de choses. Mais on n'est plus un pays exportateur. Le pays recule quoi, au niveau agricole.
La PAC, c'est un gros enjeu, reconnaît Hugues Pichard. Lui aussi est éleveur de vaches, mais en Saône-et-Loire. Et c'est le président de l'organisation de la race charolaise.
Chaque changement de PAC, de toute façon, c'est quelque chose de compliqué émotionnellement pour les éleveurs. Hein, parce que c'est quelque chose de tellement indispensable pour conserver l'agriculture sur notre territoire que c'est forcément anxiogène. Et la perte du Royaume-Uni, le Brexit, j'espère qu'il ne coûtera pas trop cher à nous, éleveurs français. C'est toujours une crainte, un budget, vous savez, personne n'attend ça sereinement.
D'autant moins sereinement qu'ils font tous le même constat. Beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs arrêtent, déplorent-ils. On ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Manuel Ruffez, une école élitiste, l'ENA, des étudiants de la promotion de l'année dernière, la promotion Molière, qui dénonce harcèlement et discrimination. Une vingtaine d'élèves ont rendu un rapport accablant à la direction. Un rapport que France Inter a pu consulter. Ils se plaignent des traitements subis pendant leur stage en préfecture, en entreprise ou encore en ambassade. Ils déplorent également le déni de la direction dans les situations de harcèlement sexiste. Cette direction de l'école se défend ce matin sur France Inter et assure avoir pris des mesures. Pierre-François Plessis.
Patrick Gérard est directeur de l'École nationale d'administration. Pour lui, les situations de harcèlement décrites par les étudiants dans ce retour d'expérience ne sont pas une surprise, mais l'école sait protéger ses élèves.
On prend des mesures, il nous arrive assez souvent de faire en sorte qu'un maître de stage qui a eu un comportement qui n'est pas correct à l'égard d'un élève, on ne le reprend pas comme maître de stage les années suivantes.
Pourtant, ces situations se répètent d'année en année selon les étudiants qui regrettent qu'aucun dispositif d'alerte ni d'aide n'existe à l'ENA.
Il faut qu'on les protège davantage peut-être dans certaines situations quand ils sont en stage en France et à l'étranger. Donc naturellement, nous serons toujours à leur écoute comme on l'a toujours été. Peut-être qu'il faut l'être encore davantage.
Patrick Gérard affirme donc avoir pris des mesures le jour même de la réception de ce rapport rédigé anonymement par une vingtaine d'énarques.
Nous allons mettre en place le 1er mars une cellule que les élèves pourront appeler directement, qui sera indépendante de la direction des stages et qui leur permettra de faire part de toute situation dans laquelle ils auraient l'impression d'être harcelés.
Nous avons contacté plusieurs étudiants de la promotion Molière qui ont préféré garder l'anonymat, mais se sont tous dit solidaires de ce constat et ont tous souligné les mêmes failles dans la prise en charge des victimes par l'école.
Pierre-François Plessis.
Et c'est une première pour la première fois, Laurence, un Européen, un Italien, est décédé hier soir, victime du coronavirus.
Il s'agit d'un homme de 78 ans. L'annonce de sa mort a provoqué un vent de panique en Italie. L'Italie, pays le plus touché d'Europe, avec une quinzaine de malades répertoriés. Les autorités ont décidé de fermer les lieux publics dans 11 villes du pays. En France, les 28 Français rapatriés de Chine sont arrivés en Normandie et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, veut rassurer les habitants de Branville, dans le Calvados, près de Cabourg. Les voilà donc en quarantaine pour 2 semaines. La directrice de l'ARS, Christine Gardel, au micro de Carole Louis de France Bleu Normandie.
Je vous rappelle ce que disent les infectiologues qui ont étudié ce virus depuis qu'il est apparu. C'est la contagion se fait au moment du début des symptômes. C'est pour ça qu'on les surveille 2 fois par jour, qu'on leur demande de prendre leur température 2 fois par jour. Par ailleurs, c'est une transmission par voie respiratoire. Donc on va demander à ces ressortissants, dès qu'ils sont en partie commune, de porter un masque de façon à ce qu'il n'y ait pas de projection respiratoire entre eux. Et c'est à une distance de 1 mètre pour sur une contamination respiratoire. Donc la population, toutes les personnes qui sont autour seront bien sûr à distance puisque on a privatisé cette partie du centre. Donc ces 3 conditions font que on peut garantir que aujourd'hui il peut pas y avoir de contamination à l'extérieur de cette partie du centre qui a été privatisée.
Christine Gardel, la directrice de l'Agence régionale de santé.
Allez, en musique à présent avec Alexandre Kantorov, le pianiste français de 22 ans a été doublement sacré hier soir aux victoires de la musique classique.
Il remporte 2 victoires, celle de l'enregistrement de l'année pour son album autour de Camille Saint-Saëns et la victoire très convoitée du soliste instrumental. À seulement 22 ans, ce jeune homme connaît déjà une carrière incroyable. Il a été le premier pianiste à avoir remporté la médaille d'or du concours Tchaïkovski et hier, il a été, à son grand étonnement, salué de 2 prix par la profession.
C'est très touchant et puis ça fait un peu peur parce que ça rajoute encore des... On se dit bon, il faut assurer encore plus, bien sûr. Ça allait très très vite, mais je m'en rends pas trop bien compte, j'avoue, pour être honnête encore. Il s'en passe des choses là, cette année, c'est la bonne étoile. Ce qui va m'intéresser, ça va plus une fois que je rentre, de me remettre à de nouveaux répertoires parce que j'en ai un paquet qui arrive. Et...
Des 2 victoires ce soir, quelle est celle que vous préférez?
Pour être honnête, je pense l'enregistrement, ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui se fait avec à la fois la famille, à la fois avec des amis, à la fois avec les gens qui m'ont soutenu. Donc c'est vraiment un truc que je peux partager.
Qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus maintenant à 22 ans avec déjà 2 victoires?
J'ai l'impression pour l'instant c'est tellement vaste, je suis loin de me dire que j'ai réussi. Au contraire, plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'on éclaire un peu à la bougie une sorte de grande pièce noire et que de plus en plus je me rends compte qu'elle est énorme. Et ça, c'est ça qui me fait le plus plaisir en fait.
Le final du concerto numéro 5 de Saint-Saëns, interprété hier soir à Metz par Alexandre Kantorov. Il était au micro de Stéphane Capron.
Et c'était le journal de Laurence Thomas.